Chers auditeurs, nous avons dit la dernière fois que Mgr Dastros fut écarté du ministère des Affaires ecclésiastiques en raison de son tempérament jugé trop ferme. Charles X, qui l'appréciait, avait voulu, en 1828, le nommer à l'archevêché de Besançon. Mgr Dastros refusa, disant que le jour de son sacre, il avait voué toute sa vie à l'église de Bayonne et qu'à l'exemple de saint François de Sales, refusant l'archevêché de Paris, il ne croyait pas devoir changer une épouse pauvre pour une riche. 2 ans plus tard, Mgr Dastros reçut l'annonce de sa prochaine nomination à l'archevêché de Toulouse. Il présenta encore ses objections, rappelant sa santé singulièrement frêle. Il mettait surtout en avant les difficultés morales et les inconvénients d'un changement. « Depuis 10 ans que je suis à Bayonne, écrivait-il, j'ai acquis la connaissance du diocèse et de son clergé. Il m'est beaucoup plus facile d'y faire le bien. Est-il raisonnable qu'à mon âge, j'aille recommencer sur nouveaux frais à gouverner un grand diocèse ?» Le roi estima qu'il n'y avait là rien de déraisonnable, puisqu'il nomma Mgr Dastros archevêque de Toulouse, le 16 mars 1830, et le 5 juillet suivant, le Saint-Père lui faisait parvenir ses bulles. Après 10 ans d'un travail pastoral qui devait marquer le diocèse pour longtemps, Mgr Dastros quitta Bayonne pour se rendre tout d'abord à Paris, où il assista impuissant et navré aux événements de juillet et à la chute des Bourbons. À sa place fut nommé à Bayonne Mgr Darboux. Cette nomination lui parvint à Toulouse, où il habitait une modeste maison près du séminaire. Après avoir été durant 3 ans évêque de Verdun, Mgr Darboux avait donné sa démission et s'était retiré dans sa ville natale. Il prit possession de son siège de Bayonne le 25 février 1831. Dans le mandement qu'il publie à l'occasion de son entrée, Mgr Darboux confie à ses nouveaux diocésains les raisons de sa renonciation à l'évêché de Verdun. C'est l'expérience qu'il a faite de son insuffisance et de sa faiblesse qui l'a amené à s'arracher à un troupeau que sa docilité lui rendra toujours cher. Son unique ambition était de s'occuper dans sa retraite des besoins de son âme. Visiblement, Mgr Darboux est un scrupuleux, voire un timoré. Mais s'il se défie de lui-même, sa confiance est grande dans le Seigneur. Plein de confiance dans la bonté du Maître qui nous envoie, écrit-il, nous renoncer sans hésiter à une liberté qui nous avait affranchi d'une multitude de devoirs graves et difficiles. Sa très grande sensibilité lui fait ressentir encore plus douloureusement ce qui caractérise pour une part la société d'après la Révolution, l'irreligion. La tendance de beaucoup de chrétiens et d'un certain nombre de ce diocésain à vouloir concilier, comme il dit, un prétendu amour de Dieu et de soi-même, le bouleverse. Il voit les effets de cette irreligion dans les attentats qui visent la personne du roi Louis-Philippe. Cela ne l'empêchera pas de faire preuve de beaucoup d'humanité en adoucissant la rigueur du jeûne de carême sur la connaissance, dit-il, que nous avons de la pauvreté d'un grand nombre de nos diocésains. Comme chez son prédécesseur, sa principale préoccupation va à son grand séminaire. En arrivant à Bayonne, Mgr Darboux trouve un grand séminaire établi dans cette ville et un autre fonctionnant à Bétaram. Mgr Darboux jugea préférable de rassembler tous les séminaristes dans la ville épiscopale. Il ne resta plus à Bétaram que quelques élèves de théologie qui disparurent à mesure qu'ils recevaient l'ordination sacerdotale. Comme le faisaient ses prédécesseurs, Mgr Darboux va, à l'occasion des dispenses de carême, solliciter la générosité de ses diocésains en faveur du séminaire. En 1834, il exprime sa satisfaction et son optimisme devant l'avenir. Nous sommes sans inquiétude sur l'avenir du séminaire lorsque nous rappelons les sentiments de foi qui animent un grand nombre de nos diocésains. Dès 1832, Mgr Darboux met à la tête du séminaire de Bayonne M. l'abbé Baillès, un prêtre originaire de Toulouse qui avait suivi Mgr Darboux à Verdun et qui était venu à Bayonne quand ce dernier y fut nommé évêque. Il a raconté lui-même qu'il avait essayé avec les séminaristes basques d'apprendre leur langue. On ne sait s'il y fait des progrès marquants. Par contre, il voulut leur interdire la pelote basque parce que ce jeu était peu compatible avec la modestie ecclésiastique. Les professeurs lui démontrèrent que ses scrupules n'étaient pas fondés. Le soupçon de connivence avec la pensée de l'amener pesait sur certains professeurs du petit séminaire de La Ressort. Mgr Darboux dispersa, un peu trop rapidement au goût de certains, le groupe d'enseignants que M. Claverie, le supérieur, avait réuni autour de lui. Dès 1831, l'abbé Sestac allait rejoindre son poste de vicaire à la cathédrale. Cette mutation fut providentielle car elle permit à l'abbé Sestac de prendre contact avec la misère des rues de Bayonne et de fonder son œuvre de sauvegarde de la jeunesse féminine. L'année suivante, M. Ilabour était nommé vicaire à Saint-André de Bayonne. Mgr Lacroix allait plus tard le nommer vicaire général, puis archiprêtre de Pau, et M. Ilabour deviendra évêque d'Aire. Quand le pape Grégoire XVI condamna les positions de l'amener, Mgr Darboux adressa à ses prêtres, avec un exemplaire de l'encyclique Singulari Nos, une circulaire où il conseignait la modération dans le jugement à l'égard des partisans de l'amener. L'année 1832 fut marquée en France par une terrible épidémie de choléra. Monsieur le préfet et messieurs les membres de l'intendance sanitaire de Bayonne vont lui exposer qu'il jugerait nécessaire que certaines dispenses fussent accordées pour le jeûne et l'abstinence de carême. Deux semaines plus tard, le roi lui-même fait demander des prières publiques à cette intention en France. Une grande procession fut organisée à Bayonne et Mgr Darboux mettra même son séminaire à la disposition de la mairie pour accueillir éventuellement des malades. Deux ans plus tard, l'épidémie reprenait et Mgr Darboux arrêta les mêmes dispositions pour y faire face. L'évêque de Bayonne avait-il l'impression que ses efforts pour améliorer la vie chrétienne de ses diocésains demeurait sans effet, et cela parce que lui-même n'était pas à la hauteur de sa mission. Au bout de 6 ans, le sentiment excessif de son insuffisance finit par l'emporter, et une seconde fois, il donna sa démission. Il se retira dans sa ville natale et retrouva l'humble réduit qu'il avait quitté 7 ans auparavant. Il y vécut encore 20 ans et mourut le 3 septembre 1858. Quelque temps auparavant, il avait écrit au Carmélite d'Oloron, dont il avait fondé le couvent, une lettre dans laquelle il leur disait « J'ai prescrit dans mon testament que mon cœur sera séparé de mon corps et qu'il soit envoyé dans votre monastère. Je vous prie de permettre qu'il soit inhumé dans votre avant-cœur et de faire graver sur le lieu où il sera déposé dans le mur, ces mots « Ayez pitié de l'âme » d'Étienne Marie Bruno Darboux, ancien évêque de Bayonne. Nous aborderons la prochaine fois l'épiscopat de Mgr Lacroix.